Les parts actualités. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités du 9 mai 2018. Hélène Denis avec vous. Et en manchette aujourd'hui, une station de métro remise à neuf sans ascenseur pour les personnes handicapées. 5 skieurs aux Jeux nationaux des Olympiques spéciaux. Aussi, toujours en manchette, une étude démontre que seulement la moitié des Canadiens se font traiter pour des symptômes de maladies oculaires potentielles qui pourraient mener à une perte de vision. En entrevue, je reçois Amy Jenkins, chef de la Banque d'art du Conseil des arts à Ottawa, qui nous parle d'une exposition en cours intitulée « Identité façonnée ». Et aussi Sarah Kempton, qui nous parlera de la soirée bénéfice Philo-Cité 2018 qui se tient le 15 juin. Madame Kempton est conseillère aux communications et événements pour le Centre Philo. Nouvelle tirée du Québec HuffingtonPost.ca, la Société de transport de Montréal, STM, prépare d'importants travaux à la station de métro Beaudry. Mais après 18 mois de chantier, dont 8 mois de fermeture complète de la station, les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ne verront aucun changement. Ils ne pourront toujours pas y accéder. Radio-Canada a dévoilé lundi que la station sera fermée après la saison estivale afin d'accélérer les travaux. Cette information fait bondir Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPLIC, puisque la station Beaudry ne figure pas dans la liste de 21 stations qui doivent recevoir des ascenseurs d'ici 2022. L'an dernier, la Cour supérieure a autorisé un recours collectif de 1,5 milliard de dollars intenté contre la STM par le RAPLIC. Les démarches judiciaires se poursuivent. La STM confirme qu'aucun ascenseur ne sera ajouté à la station Beaudry dans le cadre des travaux qui se préparent. C'est une station très complexe en raison de sa profondeur. Il s'agit donc d'un tout autre projet, affirme Amélie Régis, porte-parole du transporteur. Nouvelle série de HebdoRiveNord.com. En mai, agissons ensemble pour stopper la sclérose en plaques. Mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. En plus d'être l'occasion idéale de sensibiliser le public à cette maladie neurologique, mai marque aussi le début de la saison des événements de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Le 27 mai prochain, dans 17 villes du Québec, aura lieu la Marche de l'espoir. L'équipe de la section Lanaudière vous invite à participer à la 15e édition. Le coup d'envoi sera donné à 10 heures au parc de l'île Lebel à Repentigny. Pour vous inscrire, visitez le www.marchedelespoir.ca. Ce sera le moment idéal pour nous aider à faire un pas de plus pour stopper la SP, donc la sclérose en plaques. De plus, l'équipe a pour objectif de récolter 85 000 $ pour l'année 2018. Ajoutons que la section Lanaudière atteindra également son premier million amassé. La section Lanaudière de la Société canadienne de la SP a encore une fois créé des partenariats avec des entreprises de la région dans le cadre du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Ses collaborateurs se sont engagés à remettre un pourcentage de leurs revenus sur la vente d'un produit présélectionné. Enfin, le 31 mai, le monde entier témoignera sa solidarité envers la cause à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques. Thank you. Le Conseil des arts du Canada présente une exposition unique consacrée à la pratique artistique des personnes handicapées jusqu'au 3 juin 2018, une exposition qui s'intitule « Identité façonnée ». Et c'est une création de l'artiste en situation de handicap Persimmon Blackbridge. On en parle avec Amy Jenkins, chef de la Banque d'art du Conseil des arts à Ottawa. Bonjour, Mme Jenkins.
Bonjour, Mme Denis.
Alors, d'abord et avant tout, qu'est-ce que la Banque d'art du Conseil des arts du Canada?
Oui, la Banque d'art, c'est un programme du Conseil des arts du Canada. Donc, nous avons une collection de plus de 17 000 œuvres d'art.
Ah oui?
Qui représente plus que 3 000 artistes canadiens que nous utilisons pour la location avec les clients dans les secteurs publics et privés à travers le pays. Nous faisons aussi des prêts aux musées canadiens et les galeries à travers le pays. Et aussi, nous organisons les expositions, soit ici dans l'espace à Adjigemo, où se trouve l'exposition Identité façonnée au centre-ville d'Ottawa. Et aussi, on fait des expositions avec des commissaires invités, soit ici à Adjigemo ou ailleurs au pays. Et vraiment, nous sommes toujours en train de trouver des moyens de promouvoir les artistes dans notre collection.
Oui, les artistes canadiens. Donc, vous faites des prêts et aussi, on peut louer vos œuvres, mais il n'y a pas question d'achat ici, là.
Non, les gens ne peuvent pas acheter des œuvres d'art. Si jamais les gens s'intéressent aux œuvres d'art d'un certain artiste, on peut les introduire soit à l'artiste ou à la galerie qui les représente pour qu'ils puissent acheter quelque chose d'autre, mais pas les œuvres de notre collection.
D'accord. Et de quoi parle l'exposition Identité façonnée? Là, j'ai mentionné que ça avait rapport avec des œuvres qui sont en lien avec les personnes handicapées. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui. Oui, certainement. Comme vous avez dit, c'est une exposition de Persimmon Blackbridge. C'est un artiste handicapé de Hornby Island, en Colombie-Britannique. Mm-hmm. C'est une exposition qui comprend une vingtaine de figures, mais c'est des figures qui sont composées de différents matériaux qui forment une construction de corps variés. Donc, par exemple, ils sont faits à la main. Ils comprennent une variété de bois, des os, des morceaux de poupées déconstruites, donc des jambes, des bras, des têtes.
Oui, donc, ce sont des figurines.
C'est des figurines, oui. Oui, des figurines qui sont à peu près 15 pouces de large. Mm-hmm. Puis il y a à peu près une vingtaine. Puis vraiment, l'exposition parle de la façon que nous construisons notre identité en utilisant nos corps comme une façon de nous définir. Donc, l'exposition a été organisée par Tangled Art plus Disability à Toronto. C'est un organisme qui est consacré à la pratique artistique des personnes handicapées. Et leur mandat vraiment consiste de soutenir les artistes qui sont sourds, handicapés ou vivant avec une maladie mentale. J'aimerais souligner, c'est un autre aspect très important de cette exposition, que c'est comment on rend les autres façons que nous rendons l'exposition accessible à tous nos visiteurs.
Oui.
Donc, il y a des vidéos de langue de signes à l'SQ, le texte d'introduction de commissaire, les étiquettes. La hauteur des textes sont moins élevées pour les visiteurs en fauteuil roulant, par exemple. Le texte de l'exposition dans le dépliant, dans les espaces de l'exposition sont plus élargis pour les visiteurs malvoyants. Et nous offrons pour la première fois une description sonore pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Alors, bravo pour cette belle sensibilisation, mais...
Oui.
C'est presque naturel, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est sensible au
c'est
fait
ça.
Qu'on voudrait inclure tout le monde. Là.
On veut inclure tout le monde, puis nous, ça nous fait réfléchir pour les expositions qui s'en viennent après cette exposition. Est-ce qu'on va faire la même chose? Est-ce qu'on va garder le texte gros comme ça? Donc, nous, on est en train de réfléchir comment on peut prendre ces pratiques et les incorporer dans le futur.
Avez-vous cette intention-là? Parce que là, vous êtes en train de réfléchir. Est-ce
oui,
que
si
il y a plus
a...
de plus que de oui que de non?
Oui, on va essayer. C'est pas facile de faire pour toutes les expositions, mais on va, dans les occasions qu'on peut faire, offrir ces différentes façons, on va les offrir, c'est sûr.
Merci. Ben, tant mieux. Et Mme Jenkins, dernière question. Quel est l'accueil du public face à cette exposition Identité façonnée? Parce que ça a commencé en janvier, si je ne m'abuse.
Oui, c'était le 23 janvier, je pense. Mais c'était bien reçu par le public. On avait plus que 200 personnes au vernissage.
Oui.
Et comme l'espace est ouvert 7 jours par semaine, de 9h le matin à 21h le soir, on a eu beaucoup de visiteurs, même les jeunes des écoles alentour, les gens qui travaillent dans le bureau, les gens qui travaillent à côté, dans les bureaux à côté. Donc, c'était un public très divers et il y a des visiteurs qui ont utilisé la description sonore. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, mais il y avait des gens qui sont venus spécifiquement pour prendre le tour guidé.
Bon, alors on va aller faire un tour sur la rue Elgin. 150 rue Elgin à Ottawa, c'est jusqu'au 3 juin. Est-ce que la galerie est ouverte 7 jours sur 7?
7 jours sur 7, 9h le matin jusqu'à 21h le soir.
Et ça s'appelle la galerie Aja Gémeaux?
Adjagemo.
Adjagemo. Oui.
Adjagemo. C'est un mot algonquin parce qu'on se trouve dans le territoire des Algonquins.
Alors, on ira voir Identité façonnée par l'artiste Persimmon Blackbridge. Madame Jenkins, Amy de votre prénom, chef de la Banque d'art du Conseil des arts à Ottawa. Merci pour cette entrevue.
Merci beaucoup à vous.
Nouvelle tirée de lenouvelliste.ca. Cinq skieurs aux Jeux nationaux des Olympiques spéciaux. Cinq skieurs de la région auront l'occasion de mériter leur billet pour les Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux alors qu'ils prendront part au volet national du 14 au 20 mai à Summerside, à l'île du Prince-Édouard. Cette compétition vise à promouvoir la pratique du sport chez les personnes affichant une déficience intellectuelle. À Summerside, chaque athlète disputera 9 parties, soit 3 en équipe de 4 personnes, 3 en duo et 3 en solo. Au terme de ces performances, un classement individuel permettra de déterminer les 16 skieurs qui représenteront le Canada aux Jeux mondiaux à Abu Dhabi en mars 2019. Cette année, la compétition se déroulera de façon particulière puisque les skieurs seront seuls au rendez-vous. Le volet principal de l'événement doit être présenté cet été à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Or, comme il n'y avait pas de salle de quilles disponible pour accueillir le tournoi, les organisateurs ont dû devancer cette portion du rendez-vous dans la province voisine. En tout, 5 athlètes de la région ont pris la route de l'île du Prince-Édouard. Stéphanie Plamondon et Richard Lavoie de Shawinigan, Alexandre Béliveau, de Saint-Célestin, ainsi que Nina Mercier et Pierre Marchand de Trois-Rivières défendront donc les couleurs de la province au cours des prochains jours. Marchand a d'ailleurs déjà enfilé l'uniforme du Canada lors des Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux il y a 8 ans en Grèce. Nouvelle tirée de la Tribune, le coureur et pédiatre de Sherbrooke, Sébastien Roulier, a remporté l'épreuve de 80 km du Peak Blood Route Ultra dans l'État du Vermont, disputée samedi dernier, grâce à un temps de 9 heures. Roulier ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, le dimanche, il participait au demi-marathon de Lévis en poussant une personne à mobilité réduite. Sébastien Roulier, qui a relevé son défi de 24 heures au Mont Harford au cours des 3 dernières années, en était à sa première course en sentier cette année. Il faut laisser le temps à la nature de vivre sa transition entre l'hiver et le printemps et ne pas abîmer les sentiers durant la période de dégel. Je n'ai donc pas eu l'occasion de courir en sentier lors de mes entraînements. À 3 heures de Sherbrooke, au Vermont, comme plusieurs Québécois, j'ai répondu à l'appel du Peak Blood Route Ultra pour retrouver les sensations en sentier, résume le récipiendaire d'un Mérite Estrien 2017. Fidèle à ses défis singuliers, le Sherbrookois était déjà sur la ligne de départ d'une autre course le dimanche. Je ne pouvais pas refuser l'invitation des concepteurs du Cartus, une poussette pour des personnes à mobilité réduite conçue à Sherbrooke. Ils avaient même trouvé une personne courageuse pour se laisser pousser durant les 21 km du demi-marathon de Lévis. C'est une expérience enrichissante qui m'a permis d'oublier mes douleurs de la journée précédente. Et que dire du bonheur qu'elle a eu à participer à la course et le bonheur des gens qui l'accompagnaient. Une belle motivation pour compléter la course en 1h30 et une belle motivation dans mon parcours de coureur, ajoute Roulier. Il y aura une soirée bénéfice Filou City 2018 de la Fondation du Centre Filou qui se tient le 15 juin à 18h. Ce sera à l'hôtel Fairmont Reine-Élisabeth sur le boulevard René-Lévesque-Ouest. Et on en parle avec Sarah Kimpton, conseillère aux communications et événements pour le Centre Filou. Bonjour, Mme Kimpton.
Bonjour.
D'abord, quels sont les services du Centre Filou?
Alors, les services du Centre Filou, principalement, c'est du répit pour les familles vivant avec un enfant polyhandicapé, lourdement handicapé. Et on a aussi le camp d'été qui commence très bientôt.
Ah,
en
oui?
fait, ça va commencer le 2 juillet jusqu'au 24 août.
Et qu'est-ce qui va se dérouler pendant ce camp d'été-là?
C'est sur 8 semaines. Dans le fond, c'est vraiment un camp d'été conçu pour accueillir les enfants lourdement handicapés qui, normalement, ne sont pas acceptés dans les autres camps. C'est du un pour un. Donc, chaque enfant est jumelé avec une monitrice qui apprend à connaître ses intérêts, ses besoins. Et on fait plein de sorties. On va au parc, on prend des marches, on va à la piscine. Voir une ferme avec des animaux.
Oui. Et puis, il y a combien d'enfants qui peuvent participer à ces camps d'été?
C'est 10 enfants par semaine.
10 enfants par semaine.
Ouais,
ils passent pas l'été, c'est pas pendant 8 semaines, là. C'est une semaine qu'ils ont à vivre. OK.
C'est de 1 à 2 semaines, là, tout dépendant des disponibilités, des places qu'on a. Là, je suis pas à jour là, à ce niveau-là, mais c'est ça. C'est pas tout l'été, puis c'est juste un camp de jour. Donc, les enfants ne font pas dodo là, pendant le camp d'été. Puis maintenant qu'on a un nouveau bâtiment, on est déménagé l'an dernier.
Oui.
On a plus de place, on a une grande cour aussi. Donc, c'est pour ça qu'on accepte maintenant 10 enfants cet été. Là, auparavant, on en acceptait un peu moins.
Et est-ce que vous êtes en train de prévoir d'autres activités? Est-ce que vous avez des projets pour le Centre Filou?
Bien, c'est certain. Tranquillement, pas vite. Là. Comme je vous disais, ça fait un an qu'on est déménagé dans un espace qui est comme 3 fois plus grand que ce qu'on avait avant. Donc, le temps de former les éducatrices, d'adapter les lieux, c'est sûr qu'on voudrait accepter beaucoup plus d'enfants en répit les fins de semaine. Là, présentement, on a 10 chambres, mais on a la place là, pour pouvoir avoir au moins 15 chambres. Là.
Oui.
On accepte aussi depuis peu là, des enfants jusqu'à 21 ans.
Ah oui, des jeunes adultes donc. Oui,
c'est ça, des jeunes adultes polyhandicapés toujours. Mais c'est ça, c'est le temps de bien former le personnel parce qu'un enfant de 5 ans puis un enfant de 21 ans, c'est pas pareil quand même. Hein. Ils ont différents besoins, donc on veut faire ça tranquillement. Là, on accepte les fins de semaine.
Et ça se passe bien la formation?
Oui, ça se passe super bien.
Oui. Et le 15 juin, donc, a lieu cette soirée bénéfice qui s'appelle Boréali Filou City.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette soirée bénéfice? Bon, c'est pour recueillir des fonds, là, mais qu'est-ce qui va se passer?
Oui, bien, notre soirée Filou City, c'est vraiment un rendez-vous annuel d'envergure. Là, cette année, surtout, on va avoir 600 invités. C'est notre plus grosse activité de collecte de fonds dans l'année. Ce qui va se passer, c'est qu'on essaie de sortir de l'ordinaire un peu, être une soirée hors du commun. Donc, il va y avoir 6 chefs hôteliers qui vont participer. On parle bien sûr du chef du Reine-Élisabeth, puisque c'est à cet endroit-là que va avoir lieu la soirée, mais aussi l'Intercontinental, le Hyatt, le Omni, le Sofitel, le Fermont-Tremblant aussi, qui va être là avec sa brigade. Donc, les invités vont être appelés à goûter à plusieurs menus.
Wow! Alors, des chefs gastronomiques d'hôtel.
Oui, exact. C'est ça le concept. Puis on essaie de se différencier un peu là, des autres soirées bénéfices avec ce concept-là.
Et comment les chefs vont s'adapter au thème de cette année qui est la forêt boréale? Est-ce qu'ils vont mettre un peu de sapinage dans leurs plats?
Oui, ben oui, pas juste du sapinage. J'ai vu les menus rapidement passer, là, puis ils ont fait des beaux efforts justement pour aller travailler avec des produits locaux du Québec et des produits qui font penser un peu à la forêt aussi. Là.
Et vous attendez 600 personnes, est-ce que c'est complet ou...
C'est pas complet, les billets se vendent vite, les places se réservent vite,
oui.
Mais il reste encore de la place. Donc oui, si jamais les gens sont intéressés à partager avec leur réseau, là, sur notre site web, sur notre page Facebook, vous pouvez voir les détails. Là,
alors, on passe une belle soirée, on découvre plein de bons plats faits par des chefs qui ont de l'expérience, du talent, et puis on rend un grand, grand service au Centre Filou.
Exactement.
Et quand vous dites 600 personnes, est-ce que ce sont des gens d'un petit peu partout à travers le Québec ou ça déborde du Québec?
Bien, souvent, les gens qui se présentent à notre soirée, c'est souvent les mêmes personnes d'une année à l'autre. Les gens sont attachés à la cause. Je vous dirais, c'est surtout du monde du centre-ville, des gens d'affaires du centre-ville de Montréal là, qui sont habitués de venir avec leurs entreprises qui achètent une table, par exemple.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez appelé l'événement Filou City?
Entre autres, oui, parce que notre événement a toujours lieu au centre-ville de Montréal. On change d'hôtel, là,
oui.
Mais ça a toujours lieu au centre-ville. Oui.
Et à quoi vont servir les fonds amassés exactement?
Il n'y a pas d'objectif précis, disons, pour la soirée. Ça va juste servir à la mission globale du Centre Filou, là, qui est de venir en aide aux familles avec un enfant lourdement handicapé. Donc, pour financer nos services, comme je vous disais tantôt, de répit, camp d'été, programme de stimulation. Mm-hmm.
Et combien coûte un billet pour la soirée?
C'est 350 $ par personne.
D'accord. Et si on est intéressé à y participer, on vous retrouve par courriel, par téléphone? C'est quoi la meilleure façon pour nous de vous joindre?
La meilleure façon, ça serait d'aller voir sur notre site web au centrefilou.com. Si vous allez sur le site web, vous allez voir que l'annonce est là, elle apparaît en premier. Puis sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre par téléphone aussi au 514-739-4861.
Parfait. Sarah Kimpton, conseillère aux communications événements pour le Centre Filou, merci. Bonne soirée bénéfice.
Merci beaucoup.
15 juin donc à 18h à l'Hôtel Fermont, Reine-Élisabeth, situé au 900 boulevard René-Lévesque-Ouest à Montréal. Bloc national et international, un nouveau sondage commandé par la Société canadienne d'ophtalmologie, SCO, révèle que la majorité des Canadiens, 59 % présentent des symptômes de maladies oculaires potentielles, mais que seulement la moitié d'entre eux, 54 % déclarent avoir consulté un professionnel de la santé. Cela est particulièrement inquiétant car une détection précoce est essentielle pour empêcher la progression de maladies oculaires ou la perte de vision ou la cécité. Les ophtalmologistes, les médecins qui se spécialisent en soins médicaux et chirurgicaux des yeux, s'engagent à prévenir la perte de vision et à aider les gens à conserver des yeux en santé en vieillissant. Le mois de mai étant le mois national de la santé visuelle, les ophtalmologistes soulignent l'importance des examens oculaires réguliers. Cette promotion de la santé fait partie de la campagne en cours « Voir les possibilités de la SCO », donc la Société canadienne d'ophtalmologie, qui vise à sensibiliser les gens à la santé oculaire. Le fait qu'une majorité de Canadiens pourraient présenter des symptômes précoces de maladies oculaires potentielles sans avoir d'examen oculaire nous inquiète, déclare le docteur Mona Arissi-Daguerre, MD-FR-CSC. Des examens oculaires réguliers complets avec dilatation du fond d'œil sont importants, car certaines maladies oculaires graves ne présentent pas de symptômes du tout avant d'atteindre un stade très avancé. La détection précoce de ces maladies permet leur traitement et par conséquent permet de préserver la vision. Ceci est encore plus important pour les personnes dont la vision diminue, qui ont des antécédents familiaux de maladies oculaires ou qui sont atteintes d'une maladie chronique comme le diabète. Le Canada célèbre ses héros olympiques et paralympiques sur la colline du Parlement. Nos athlètes de haute performance sont dans la capitale du Canada afin d'être honorés pour leur réalisation aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pyeongchang 2018. Les activités qui se dérouleront aujourd'hui à Rideau Hall en présence de Son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, et sur la colline du Parlement en présence de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des personnes handicapées, rendent hommage aux athlètes, guides et entraîneurs canadiens pour leur réalisation et performance record aux récents Jeux d'hiver. Ils seront accompagnés de Tricia Smith, présidente de Chris Overholt, chef de la direction et secrétaire général, et d'Isabelle Charret, chef de mission Comité olympique canadien. La journée débutera par un clavardage olympique d'équipe Canada Interactif National qui permettra aux jeunes de partout au Canada de discuter avec des Olympiens et Paralympiens en direct à partir de Rideau Hall. Les athlètes, les étudiants et le public à Rideau Hall seront aussi en mesure d'essayer des sports comme le para-hockey sur glace et la planche à neige. Après une cérémonie spéciale en matinée, les membres d'équipe Canada se rendront au Parlement pour être fêtés à la Chambre des communes et faire connaître l'histoire de leur parcours exceptionnel. INCA est présentement en période de recrutement pour 2 emplois d'été rémunérés d'une durée de 9 semaines. Nous encourageons fortement les personnes vivant avec une perte de vision à postuler. Nous recherchons un agent ou une agente en communication et philanthropie, un agent ou une agente en développement événementiel. Pour être admissible, vous devez avoir 30 ans ou moins, avoir été aux études à temps plein au cours de la dernière année et avoir l'intention d'y retourner en septembre, correspondre au profil recherché, être bilingue, un atout. Envie de faire partie d'une équipe dynamique et de changer ce que signifie être aveugle, communiquez avec INCA, donc pour 2 emplois d'été. Disponible. C'est tout pour les paractualités. Un grand merci à Amy Jenkins, chef de la Banque d'art du Conseil des arts à Ottawa, et aussi à Sarah Kempton, conseillère aux communications et événements pour le Centre Filou. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous d'avoir été présent et à l'écoute. Je vous retrouve, j'espère bien, demain. Bonne journée.